Top. Alors répète ton sujet, Raphaël.
Non, par exemple, quand on voit que par la parnassa, on voit des gens, des richalim, etc., qui font rien, qui font que dans le datachem, ils sont dans l'abondance d'aucun besoin, et pourtant, même s'ils font des chouva, ils auront. Je pense pas qu'un gorfou leur enlève généralement la richesse obligatoirement. Donc, nous, on se voit qu'on se bat alors qu'on essaie de faire le datachem. On essaye. C'est mesuré des fois, parce qu'on a beaucoup de privations par rapport à des gens qui sont avec nous. On a beaucoup de privations, on a des
trucs
difficiles parce que nous, c'est sûr qu'on n'arrive pas à se démener normalement dans une société qui est exempte de Torah. Quoi. Généralement, il n'y a pas tellement de mal sur le Torah. Alors, c'est difficile. Quoi. Même si on se met vraiment dans une danse comme ça, des fois, on est amené par rapport à nos origines familiales, professionnelles, etc., à ne pas côtoyer que des gens qui sont respectés de tout ça. Donc on est confronté à des épreuves que comme ça. Ça veut dire sur le Nisayon de se battre plus encore que les autres. Mais est-ce que le mérite finalement de prendre des courage? Parce qu'il n'y a pas de motivation.
Si je comprends bien, il est tombé. Bon, le Nisayon, l'épreuve. Nisayon, c'est l'épreuve. C'est un sujet en soi. Mais là, toi, tu précises, tu dis l'épreuve de la parnassa, de l'injustice de Dieu, l'injustice relative de Dieu. Parce qu'on voit des gens qui sont des gens bien, qui souffrent pour finir leur mois, et d'autres qui sont des ordures, et... Hein? Pas tous, mais il y en a quand même. Où est la justice de Dieu? Bon, la réponse pour ça est très simple. Je vous demande qu'on m'apporte Vaitrana.
Ah, Moshe, il a posé une question à Hachem. Alors, Hachem lui a montré, le lieu des films. C'est-à-dire que c'est une réponse à
fond.
On ne peut pas vraiment répondre directement, même s'il y a des réponses dans la Gemara, dans la Gemara Brachot, on en parle, mais une réponse simple. C'est pas
messieurs, enfin, franchement.
C'est pas sur cette question que Hachem nous a montré le nœud des filles.
Oui.
Moi, j'ai lu un pérouche qui disait que le nœud des filles, ça voulait dire que la justice.
Il a voulu comprendre tout, vraiment bien comprendre toute la. On peut répondre comme ça, c'est-à-dire que comprendre pour chaque cas pourquoi quelqu'un vit ce qu'il vit. On peut pas. Parce qu'on n'est pas des prophètes. Rabbeinu Ahari, des grands, pouvaient le faire. Nous, certains, il n'y a aucun homme au monde qui peut savoir cela. Aucun. Celui qui dit qu'il sait, il ne sait pas. Il n'y a que les kabbalistes bidons qui font comme si. Par contre, ce qui est oui donné, ce sont des cas généraux, des cas figures généraux. Ça peut se passer comme si, ça peut se passer comme ça. On peut expliquer pourquoi quelqu'un souffre, pourquoi quelqu'un est saillonne par plusieurs sortes de raisonnements. Appliqué dans le cas précis de X, tu souffres parce que ça, on n'a pas le droit, qui sommes-nous pour aller dire? Mais dire en général comment ça peut se passer, oui, à part des cas extrêmes aussi, où c'est quand même assez dur, mais pas complètement caché. On va donner quelques exemples dans ta chaîne. Donc j'ouvre Vaitranan, c'est l'avant-dernier verset de Vaitranan. Alors en français c'est un peu dur à trouver, dans ce sens-là, voilà. Vaitranan, c'est dans Deutéronome, chapitre 7, versets 9 et 10. Yadata, tu sauras, ki Hashem Elokecha, que l'Éternel ton Dieu, Hua Elokim, il est le Tout-Puissant. Hakel Haneeman, le Dieu fidèle, Shomer Abrit, qui conserve l'alliance, va Chesed, et la bonté, le Ohavav, à ceux qui l'aiment à Dieu. Ou le Shomer Mitzvotav, à ceux qui gardent ses mitzvot, l'élève d'or. Quelqu'un qui fait des mitzvot qui aime Dieu, alors Dieu garde son mérite pour 1000 générations. Ou le Shalem et son Av, et Dieu paye les son Av à ceux qui le haïssent à Dieu. El Panav, sur sa face, la Avido, pour le perdre, lo yacher le son Av. Il ne tardera pas à le haïr, El Panav et Shalem lo. Sur sa face, il le payera. Les gens qui se trompent pensent, ils payent au sonim, à ceux qui haïssent Dieu, ils le payent. Oh, t'as fait une bêtise, tiens, tu vas maintenant payer avec une raclée. C'est faux. Ou jamais son ave, il payera les mitzvot qu'il a fait. Je vais lire Rashi sur place. Il les rembourse de leur vivant, de ce qu'il leur doit pour le bien qu'ils ont fait, afin de les faire disparaître du monde à venir. Il y a un monde d'éternité et un monde de mensonges. Mais j'ai expliqué souvent ici, je vais dire en cours, la vérité, c'est ce qui est. Une chose est vraie dans la mesure où elle est. Si je dis c'est un livre, c'est vrai, parce que c'est un livre. Si je dis c'est une Ferrari, c'est faux, parce que c'est pas une Ferrari. C'est faux, ça n'est pas. Qu'est-ce qui est vraiment ? Que ce qui est éternel. Tout dans ce monde est voué à disparaître un beau jour, donc ça n'est pas vraiment. Nous sommes intéressés par la vie, nous sommes intéressés par ce qui est, c'est l'éternité. On appelle cela Olam Haba. Pas besoin d'aller Olam Haba pour vivre Olam Haba, on peut déjà vivre Olam Haba ici, que je sais que je suis branché avec l'éternité, j'ai un sens, je touche la vérité, j'investis dans cette vérité, j'investis dans ce sens, je suis branché avec l'éternité. Quelqu'un vient et dit, moi, je n'y crois pas cette éternité, moi je veux ici. Bon, il a fait quelques actes qui lui donnent un mérite d'éternité. Il a un beau jour donné à Zedaka, il a un barbu un peu puant qui lui demandait un peu d'aumône, il lui a donné pour les chivales, et tiens, il a tallé pendant une heure, ah, t'es casse-pied, tiens, prends 10 euros, disparaît. Il lui a donné 10 euros de Torah. On a fait de la Torah avec ces 10 euros. Il a un droit à de la Torah. Un beau jour, il a fait traverser une bonne dame, elle a traversé la rue, il a dit, prends des paquets, d'accord, il a... Bon, il n'y a pas de juif, aussi rachat qu'il soit, qu'il ne soit pas plein de misos, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Rakater Kepel HaHarimon, Rakater, ta tempe est comme le morceau de grenade. Le Chazal font un drash, une drasha dit Rakater Rekim, Rek, c'est vide. Raka, c'est vide au féminin. Rakater, les vides qui sont chez toi, les vides âmes du peuple d'Israël, c'est quoi? Les Rechaim, les gens qui sont loin de tout, qui n'ont pas de misos. Ils sont néanmoins pleins de mitzvot comme un morceau de grenade. Combien il y a de grenades, de grains de grenade? Plein. Tu n'as pas de juif, aussi vide qu'il soit plein, pas plein de mitzvot. Donc il a un mérite pour Olam Haba. Maintenant lui dit, je veux pas Olam Haba. C'est pas que Dieu l'interview un beau jour. Mais Dieu peut jauger quelqu'un, savoir qu'est-ce qu'il veut. Il lui dit, moi la Torah, j'y crois pas, pas encore revenu là-bas pour dire comment ça se passe, c'est des foutaises. Moi, donne-moi à m'écrire dans ce monde ce que je veux, les bagnoles, l'argent, les bonnes femmes, le club med, les honneurs, c'est ce qui compte pour moi dans la vie. Ouais, Maba, je ne veux. Ça, on appelle quelqu'un qui a la haine de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas nous à les juger. Parce que Dieu peut juger quelqu'un vraiment dans quelle mesure cet homme-là a la haine de Dieu, quelles sont les circonstances atténuantes qu'il a eues, une enfance malheureuse, avec une Shoah, des gens qui ont fait la Shoah, des parents religieux tordus qui l'ont éduqué de façon tordue. Ça ne manque pas tous les cas de figure, nous ne pouvons pas juger. Mais si Dieu juge que quelqu'un maintenant mérite qu'on lui fasse disparaître son mérite dans Olam Haba, il a quand même des mitzvot, comme une grenade pleine de mitzvot. On le paye dans ce monde. On ne tarde pas à le payer. Les tzadikim, on tarde à leur payer. Les tzadikim, ils disent, moi, Olam Haba, je veux pas. Je veux arriver à Olam Hazé, ce monde-ci, je ne veux pas. Ce que je veux, c'est Olam Haba. Je me souviens, Rabbi Yisrael Abba Shaul, Zatzal, il souffrait énormément. Il n'y avait pas un organe qui fonctionnait chez lui comme il faut. D'accord? C'est un miracle que ça tenait tout ça à la fois. Il souffrait énormément. Alors moi, une chose, je lui ai dit, bah, oh, Hachem Kfodara, vous souffrez pour la génération. Elle dit, ah! Elle dit, si, j'espère seulement que j'arriverai propre en Olam Haba. Lui, dans sa tête, je souffre. Bon, nous, on sait qu'il souffrait. D'autres fois, il a dit que c'était aussi pour. Il a dit que si moi, je ne souffrais pas, alors d'autres souffriraient à ma place. Ça, il a dit aussi. Mais moi, il m'a dit, je souffre au moins pour que j'arrive propre en Olam Haba. Et ça, ne me fais pas de moi ce que je ne suis pas, vous souffrez pour la génération. Il a dit ça en avant, en modestie, en humilité. Mais, néanmoins, c'est cette notion que quelqu'un préfère souffrir ici, bien que c'est pénible, et bien que le Talmud dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite, mais si déjà ça vient, alors il faut savoir qu'il y a un très grand mérite à cela. La souffrance, elle nettoie, et si tu n'as pas de quoi nettoyer parce que tu es déjà propre, ça te donne du mérite énorme, qui sourit à Abba. Ça arrive. C'est quoi une souffrance? Une souffrance, c'est une participation de l'être actif. Quand quelqu'un, il ne souffre pas, alors il vit. Quand il souffre, sa tension de vie, elle est beaucoup plus haute. C'est comme si quelqu'un fait un effort. Quand il fait rien, alors il est mort. Quand il fait un effort, il est là, il est actif, il est en train de faire. Quelqu'un construit maintenant, il met une brique sur une brique, il fait un effort, il est en train de construire. Il y a un effort, il y a une participation active de l'être. Alors tu les fais faire porter 10 tonnes à la fois. Okay, l'écraser sous le poids, il souffre terriblement. C'est une participation extrêmement active, rapide de l'être. Ce qu'il aurait pu faire en 40 ans, il le fait faire en 40 jours. C'est en essayant une épreuve très dure. On lui fait vivre très très fort, malgré lui. On lui fait vivre à une allure, à une amplitude, à une intensité très grande, une intensité de vie, malgré moi, beaucoup plus forte que ce que je suis prêt à prendre normalement, ça s'appelle souffrance. Donc les tzadikim préfèrent souffrir ici pour arriver propre là-bas. Les rechaim, Dieu, le verset dit ici. Dieu leur dit, tu veux pas de olam haba, ok. Mais tu as du mérite, moi je suis juste, je te donne ce que tu comprends. Si je m'attends à la main, tu me dis, j'ai fait des mitzvot, il dit le type. J'ai fait une fois, j'ai donné 10 euros à un religieux pour une yeshiva. J'ai aidé une vieille dame à traverser la rue. J'ai droit à quelque chose, je suis un homme bien, j'ai fait des mitzvot, d'accord, j'ai droit. Alors, tu veux quoi? Moi j'ai droit, donc je suis un homme bien. Qu'on me donne ici. Là-bas, il dit, ça n'existe pas. Dieu donne ici.
Lui aussi pense que ça existe là-bas.
Alors, à Dieu de juger à quel point. C'est Dieu qui juge, on ne peut pas savoir. Je te dis maintenant, ce clal, cette loi générale existe, que Dieu peut faire payer quelqu'un, lui donner le mérite de ses mitzvot ici, à la place de là-bas. Pour faire disparaître de l'âme, c'est une chose terrible, d'accord, qu'on souhaite contre la personne.
C'est d'accord de faire disparaître.
C'est vrai qu'il est marqué. Lo idar menon idar. Aucun disparu ne sera disparu. C'est marqué dans la dernière Mishnah, la première Mishnah du dernier chapitre de Maaseret Sanhedrin, s'appelle Chelek. Elu she'en laim chelek olam haba. Voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Là-bas, il y a une liste. Donc on voit, Chazal disent qu'il y a des juifs qui n'ont pas part au monde futur. C'est marqué dans les livres profonds que même ceux-là, ils n'ont pas quand même. Mais non, après.
On dit
dans Israël, il y a Shalek. Oui, à part ceux qui n'ont pas part. Et tous, ils ont une partie, ils peuvent y arriver. À part ceux qui n'ont pas droit. Ils avaient une partie potentielle qui leur revenait, ils l'ont effacée. Ils ont dit, moi, je veux pas de ça. Quelqu'un, il a une part. Maintenant, il va pas la prendre. Toi, je veux maintenant Honolulu, tu auras droit à une villa à 3 étages, avec piscine, tout confort. Pour ça, il faut bosser ici un peu. Tu ne peux pas bosser ici, tu n'auras pas la villa. Tu n'as pas la villa, mais tu la perds. Alors, au sens. Pardon ? Alors, on va en parler. Je suis en train juste de finir ce que je suis en train de dire maintenant. Qu'est-ce que je disais ? Donc même ceux à propos duquel il est marqué dans le sens simple, qui n'ont pas part au monde futur, c'est marqué dans le livre profond qu'ils auront quand même part, à la fin, parce qu'il est impossible, chaque âme juive faisant partie de la divinité, des âmes du premier homme, de la divinité, il est impossible qu'il y ait une partie de la divinité qui soit absente. Impossible. Donc tout sera réparé à la fin.
Et ceux dont on parle même qui n'auraient pas le droit au départ, c'est on parle d'une infime minorité ou d'une majorité.
Personne ne te donne le nombre, d'accord. On te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en faire partie, d'accord.
Les goyim alors.
Goyim c'est autre chose. Les goyim, ceux qui ont fait les 7 lois noachides, on part aussi.
Ils n'ont pas les 7 lois alors.
Alors ok, non plus. Pourquoi leur l'eau
de toute façon, y a rien du tout.
Pourquoi leur l'eau serait meilleure que celui des juifs. Pardon.
Quatre
fois quatre navires,
bien dans les.
Oui. Ok, donc un rachat de Goy, il n'a pas part au Lamaba. Mais un tzadik Goy, il a part au Lamaba. Il a part. Maintenant, comment se fait-il qu'on voit des tzadikim qui sont très bien? Et tout va très bien. On a déjà parlé une fois de ça, je crois, même devant les caméras. Il y a. La Gemara dit comme ça. Un tzadik qui souffre, peut-être à 4 heures de personne. Un tzadik, tout va bien. Mais un tzadik qui souffre. Après, on voit un rachat, tout va bien, et on voit un rachat qui souffre. Qu'est-ce que c'est? Elle dit le tzadik qui va bien, tzadik ben tzadik. Tzadik fils de tzadik. Tzadik qui va mal, tzadik fils de rachat. Le rachat qui va bien, rachat fils de tzadik. Le rachat qui va mal, rachat fils de rachat. Tu me poses la question, et je ne comprends pas. Tzadik fils de tzadik, tout va bien, parce que son père était tzadik, alors lui, il doit aller bien, ça je veux bien. Mais tzadik fils de rachat, son père était Racha. Lui, c'est un sadique. Et il doit souffrir parce que son père était Racha. Non, au contraire. Son père était Racha, il a eu une mauvaise éducation, il avait tout pour être Racha, il s'est tangé, il est devenu sadique. Il est super sadique, super aller bien. Pourquoi? Parce que son père, il va mal, lui devrait aller mal. Il devrait aller bien. C'est marqué, on a vu cette nouvelle paracha de Kitsetse, hier, Lo yumtu avot el banim. Le lo yumtu banim al avot. Les ish beheto yumatu. On tue quelqu'un à cause du péché, son péché. Pas celui des ancêtres, ça n'a absolument rien à voir. Répond la Kabbalah, elle dit, c'est quoi le fils, c'est quoi le père? Le fils, c'est lui actuellement. Ta vie actuelle. Ton père, c'est ta vie antérieure. C'est celle qui a engendré cette vie. Toi, ici, tu es venu réparer ce que tu n'as pas fait dans le... Ce que tu as fait ou pas fait, ce que tu n'as pas fait en mitzvot, ce que tu as fait en averot, dans le Gilgoul passé, dans la réincarnation passée. Donc ton père, c'est toi. Mais par exemple, on comprend ce que nous faisons dans le vidouille tous les jours, et maintenant, mets-toi un petit pot. Ashanu, Bagano.
Maintenant, mais avant, il n'y avait pas tout ce système de Gilgoul.
Un moment. Chatanu, Anachnu, Babotanu, Shibetanu. Nous avons péché, nous et nos parents. Ashamno, Bagano, c'est toi qui es venu me dire ça. Pourquoi je dois faire c'est toi? Pourquoi je dois faire maintenant le vidouille? C'est toi qui m'a demandé. Tous les jours je fais le vidouille, ni Afnou, j'ai fait l'adultère. Je parle l'adultère, d'accord? Je sais pas moi, Chikarno, j'ai pas menti. Enfin,
on dit pas des alliés, quoi. On dit pas j'ai,
on dit
nous
et nous. Anarno, Babotenu, nous et nos parents. Mais c'est pour nous qu'on fait.
J'ai fait.
Alors tu fais vidouille pour les autres, tu fais vidouille pour toi.
Tu dis aussi,
non,
tu
parles,
c'est pas
que
pour
s'enfoncer,
c'est pour tout le monde.
Nous, nous, nous et nos parents. En tout cas, Rabbi Noiré l'explique comme ça. Il explique que toi, tes parents, toi, c'est ta vie, tes parents, c'est ta réincarnation ou tes réincarnations antérieures. Et si tu fais la vidouille, maintenant, pour ce que tu n'as pas fait dans cette réincarnation, tu l'as fait parce que peut-être tu l'as transgressé dans des réincarnations antérieures. Ne sachant pas, pour ne pas prendre de doute, tu dis quand même. Toutes les pires erreurs que tu aurais pu faire, que tu sais très bien que tu n'as jamais fait, parce que ça peut que dans tes réincarnations passées, tu as fait moi et mes parents, parce que je suis le résultat de ma vie antérieure. Dès lors, on comprend tout. Le sadique, c'est le sadique, c'est lui, sa vie antérieure, il était impec. C'était un bon sadique. D'ailleurs, il est revenu ou pour aider à Israël, des fois on revient pour aider à Israël, revenu pour corriger un petit truc. Rien du tout. Alors, il est sadique aussi, sadique, fils de sadique, tout va bien, pourquoi il n'a rien à payer. Sadique, fils de Racha, lui c'était un capot dans la réincarnation passée, et lui maintenant il est rentré à l'Eshiva, il a fait une belle tchouva, c'est un bon juif, et il se ramasse une galère toute sa vie. Pourquoi? Il a fait tellement de mauvaises choses dans sa réincarnation passée, il doit payer. En tant que sadique maintenant, il paye la réincarnation passée. Racha, que tout va bien, Racha, fils de sadique. La réincarnation passée, c'est un sadique. Il est venu corriger un petit truc et il s'est planté complètement. Il est parti dans le décor. Alors, un Racha, mais il va bien. Ou Racha, fils de Racha, c'est la fois passée aussi maintenant, il va pas mieux. Donc, non seulement il va pas bien maintenant, la fois antérieure non plus, et là, il paye ce qu'il a pas fait dans la voie antérieure. C'est encore un autre cas de figure, différent de ce qu'on a vu avant. On a vu un Racha que tout va bien, que Dieu lui paye maintenant pour pas le payer dans la main bas. Là, on voit maintenant un Racha que tout va bien parce que lui, maintenant, il a le bénéfice de sa réincarnation passée. Il doit un sadique. Je donne et je réponds rapidement. Il peut avoir deux options. Ou bien il va réparer un petit truc qu'il n'a pas fait, ou qu'il a fait, une transgression qu'il a transgressée, ou une mitzvah qu'il n'a pas fait. Ou il vient, il y a des hommes qui viennent pour aider. Aider en Israël. Chaque génération, tu vas dire.
Il n'y a pas des choses. Les gens qui font la vérose, ils sont aussi punis dans leur vie présente. Alors, oui. Si les rachats maintenant, pourquoi ils ne sont pas punis pour ce qu'il fait?
Aussi.
Alors, pourquoi il va bien?
Hein?
Pourquoi il va bien?
Alors, c'est un mélange des deux choses, d'accord? Dieu lui fait, en partie, il rachat fils de tzadik, tu passes.
Oui, oui.
Il lui dit, ok, t'as un rachat, tu payeras, tu payeras tout. Je te paye maintenant la mitzvah que tu as fait dans ce monde-ci. Ou des fois, Dieu attend. Très souvent, Dieu attend. Comment Dieu fait? Dieu, il a le mérite de rachamim. Encore un troisième cas. Pourquoi quelqu'un va bien qu'il est rachat? Dieu miséricordieux. Le din, c'est quoi? La rigueur, c'est que quelqu'un a fait une erreur, il doit payer, mais tout de suite. T'as fait une erreur, tu payes tout de suite. C'est quoi miséricordieux? Il y en a qui se trompent, qui croient que Dieu il pardonne. Dieu pardonne jamais. Ça n'existe pas, parce qu'il a les deux attributs, de rigueur, de justice, et miséricorde. Tu peux voir qu'il y a miséricorde, c'est pas à la place de la justice, c'est les deux à la fois. Comment les deux à la fois? t'as une facture. La justice, elle dit, tu payes. La miséricorde dit, on lui laisse le temps de faire tchouva. Laisse-lui le temps. On va laisser 6 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans. Rav Esraïm écrit dans ses écrits qu'il a vu une fois un riche propriétaire foncier. Il avait une maison, un appartement, qu'il louait à une veuve et des enfants orphelins. Et elle n'avait pas de quoi payer. Il attend quelques mois. À la fin, en plein hiver, un jour de neige, il les a mis dehors, hors de la maison. Par la maison, un jour, comme ça, des orphelins et des... une veuve et des orphelins, par un jour de neige comme ça. Il a eu 30 ans, il a attendu le Rav Esraïm, il a vu à la fin comment il a payé. Mais 30 ans, dans le ciel, c'est 30 ans ce type-là qui fasse tchouva. Il n'a pas fait tchouva. C'est pour ça qu'on voit très souvent que des gens, à la fin de la vie, ils souffrent. Pourquoi on souffre à la fin de la vie? Parce qu'on a une sale maladie, ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu te laisse faire tchouva jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, vois, il y avait une facture. Les factures s'avancent. Miséricorde, miséricorde. On demande à Yom Kippour miséricorde. Ok. Il n'y a pas de pardon sans tchouva. Il y a, au mieux, Dieu repousse la sentence. On repousse, toutes les sentences elles arrivent où vers la... On repousse, mais à la fin, il y a une deadline, il y a une date limite, le jour de la mort. 1 an, 2 ans, 2 mois, 4 ans avant la mort, t'as beaucoup de factures, mon vieux. Tchouva, on t'a laissé maintenant 70 ans pour faire tchouva, t'as pas fait tchouva, commence à déjà à élaguer un peu les factures. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent à la fin de leur vie.
C'est-à-dire, lorsque j'ai lu dans le Rachaïm Akadosh qui disait que la justice a été aussi miséricorde.
Elle est ?
La justice de Dieu est aussi, il y a aussi de la miséricorde.
Comme je viens d'expliquer exactement, c'est cela. Qu'on ne peut pas dire que.
La justice en elle-même, à part la Midata Rachaïm, la justice elle-même, elle est aussi miséricorde.
C'est ça que ça veut dire. Justice en tant que justice, tu payes tout de suite. Maintenant, si on dit miséricorde, c'est à la place de la justice, c'est faux. Parce que ça veut dire que Dieu ne serait pas juste. Or, Dieu, il est juste. On ne peut pas dire qu'il devient du coup non juste. Il pardonne. Parce que tout celui qui dit que Dieu, il pardonne, mais va taire, il passe l'éponge, on passera l'éponge sur lui. On va l'effacer. Il n'y a pas de passer l'éponge. Il y a repousser la facture. Donc des fois, quelqu'un, il a bien toute sa vie, et puis attends, à la fin, il y a une facture dans ce monde-ci. Et sinon, dans ce monde-là, là-bas, Hasé Shalom, le pire, c'est là-bas. On préfère payer de loin ici que là-bas.
Et les enfants qui meurent à la maison.
Alors ça, c'est un cas très connu. Il y a, je vais raconter une histoire. Il y a, enfin authentique, dans, j'ai expliqué dernièrement ici, je crois sur le cours d'Ilkhot Tchouva, qui était facile d'ailleurs je crois, on a parlé un peu des réincarnations, de la métempsychose, et Gilgulim. Il y a 8 livres, je me souviens bien, 8 chers et 8 portails dans les livres de Kabbalah, du Rabbi Noari. Il y en a un qui s'appelle Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim, des réincarnations. Là-bas, il explique tout, comment on se réincarne, pour qui, pourquoi, quelle partie, il explique tout là-bas. C'est un livre extrêmement compliqué, assez inaccessible de compréhension, et sur ce livre-là, il y a un commentaire très connu du Rav Shimshon Agassi. Il y a environ 120 ans, il vivait en Babylonie.
120 ans ?
Oui, 120 ans environ. À l'époque de Rabbi Haïm, Rabbi Seth Haïm de Bagdad. Donc c'était hier le Yortzeit, le Ben Ishraï. Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. D'accord, c'est un élève, un contemporain de Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. Et il avait des enfants. Son premier fils est mort. Comment il est mort? Il a fait un chidour. Et il a fait les kiddushim. Arrête, me kiddushim, tu bêta bato, qu'est-ce que je vis Israël. Il a mis la bague. Et après, il est mort.
Comme ça.
C'est pas mieux de la choupa, ou la même nuit, ou avant en tout cas, qu'il se devienne mari complet. Avant que la femme tombe enceinte. Bon, la loi est que le frère après fait le yiboum, se marie avec cette femme-là. À l'époque, il faisait ainsi. Vient le deuxième frère, qui a grandi, 2 ans plus tard. De nouveau, il vient à la choupa, à Bukoshetli. Il meurt. Toute la ville reste bouche bée. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Lui-même a pris le corps. Il raconte l'histoire dans l'introduction. Il raconte pas le secret que je vous dis maintenant. Parce qu'il dit, il a appelé son livre, son commentaire sur Shara Gilgulim, Bnei Aaron, les fils d'Aaron. Il dit la raison pour laquelle j'ai appris ainsi, C'est parce que Béné et Aaron sont morts sans enfants, et on se veut dire de mes enfants qui sont morts aussi sans enfants. Et pour une autre raison qui est secrète. Un rabbin une fois m'a dévoilé la raison secrète que je vous dévoile à vous aussi maintenant. Le deuxième fils est mort. Il a pris le corps du fils, il l'a mis dans sa chambre, il l'a tenu comme ça. Au lieu d'aller l'enterrer comme il se doit. Le matin, il se lève, il dit c'est bon, vous pouvez l'enterrer. Tranquille. Avec, bien sûr, pleurant, etc. Mais pas aussi révolutionné, bouleversé de ce deuxième décès. Alors le secret est le suivant. Cette même nuit, il a fait une sorte de demande kabbalistique, savoir de ne pas laisser sortir l'âme, c'est ce qu'on lui dévoile pourquoi son fils est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans la nuit, il est arrivé et il voit un homme venir vers lui habillé avec les habits du Kohen Gadol. Il dit, je suis Aaron à Kohen. Sache que mes deux enfants, Nadav et Avihu, qui sont morts non mariés, ils n'ont pas fait la mitzvah de se marier. Ils sont venus maintenant en Gilgoul chez toi, parce que tu es un grand sadique et je n'ai pas voulu qu'ils aillent chez quelqu'un d'autre que chez toi. Maintenant, ça fait quelques milliers d'années que les gens qui reviennent chez moi réparés comme il se doit, laissent leur âme revenir vers moi. Le secret était que donc, ces deux enfants du Rav Shimon von Agassi étaient les Gilgoulim, réincarnation de Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron qui sont morts sans s'être mariés. Ils sont venus faire cette mitzvah. Il arrive qu'on revienne sur Terre. Pourquoi est-ce que des enfants jeunes meurent? D'habitude, ce sont des tzadiks parfaits. Ils ont déjà tout fini dans un guilgoul passé. Ils sont venus juste finir encore un petit truc qu'ils ont à faire. Un petit truc. Alors pourquoi rester si longtemps? Même des fois des morts-nés. Ils doivent venir même goûter, que la Neshama goûte la souffrance de revenir ici sur Terre. Quand tu es dans la Neshama, tu es en haut au paradis, et tu viens ici dans ce monde affreux, d'accord? Rien que goûter le goût de Olam Hazeh, déjà, c'est déjà un grand tikkun. Que le corps meurt, c'est le plus grand tikkun qu'on puisse faire. Quand le corps meurt, c'est toute la matérialité qui devient spirituelle, qui se désincarne et spiritualité. C'est un très grand tikkun. Des fois, rien que pour cela, une âme peut revenir sur Terre. On voit de toute façon que les gens, les meilleurs, ceux qui partent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont effectivement des gens très bien. Pourquoi rester sur Terre? Ils ont fini leur job, et ils repartent. C'est pour ça qu'il a appelé le nom de son livre, Bnei Aaron, les fils d'Aaron. C'est vrai. Parce que ceux qui partent, c'est certain que Tovium Hama avec Hivaldo, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Mais ceux qui restent.
C'est pour augmenter son capital.
Hein?
On augmente son capital.
Oui et non. Oui et non. Oui, et non, c'est marqué. Agma raconte que pendant 2 ans, Beth Shammai et Beth Hillel se sont disputés ensemble, voir qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce que mieux vaut que l'homme soit né ou pas né? Ils ont tranché, mieux vaut que l'homme ne soit pas né. Maintenant qu'il est là, alors qu'il fasse le Mahasab, qu'il vérifie ses actions et qu'il fasse Shuva. C'est-à-dire que si tu as le choix, mieux vaut ne pas naître. Tu as plus de chances de rater que de réussir. Tu me dis, augmenter le capital, qui te dit? Qui te dit? Si oui, mais sinon, on te dit que mieux vaut ne pas revenir sur Terre, parce que c'est tellement dur de gagner. Ah, mon pareil, aussi, tu étais à l'époque de Moshe Rabbeinu, encore, je peux comprendre, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, de son temps, il n'y a jamais eu l'arc, jamais Dieu a voulu détruire le monde, tellement le monde allait bien. Mais aujourd'hui, qui te garantit que tu vas garder ton capital? Une fois que tu as volé, il faut venir en Gilgoul pour ça. Une fois la chonara, il faut faire des anglais pour ça. Eh, le Shabbat, que genre des choses affreuses. Pourquoi t'as besoin de ça? Moi, je suis une chouva totale, et bye bye, on part, terminé. Qui demande à rester ici? Si t'as fini ton job, on soit d'un routiamim, parce que c'est pas sympa de dire, écoute, j'espère que tu vas mourir bientôt. Nous, on vit dans l'amazé, on n'a pas vu dans l'amaba. D'accord? La souffrance, on voit que c'est quelque chose de bien. C'est un grand mérite. Alors, tiens, viens par ici, allez, tac! Dis-moi merci. Tiens, j'ai encore un peu de l'amaba. Viens, j'ai encore un peu de l'amaba. Le côté gauche, il a pas reçu. Tac! C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on doit devoir vouloir le bien, le olam hazeh de nos frères. Surtout pas le olam haba. Quelqu'un qui est malade, c'est bien, caparatabonot. C'est cruel, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mon pauvre misken, tu souffres, on doit prier pour eux. Nous devons avoir, ça c'est la mitzvah de chesed. Nous devons désirer de toutes nos forces le olam hazeh de notre prochain. Pour nous, notre olam haba. Et pas inversé. Très souvent, les gens, ils font quoi? Ils veulent leur olam hazeh à eux. D'accord, moi je veux l'amaser, donne-moi moi, et les autres, tiens, donne-moi, tu auras une mitzvah, tiens, prends-toi un peu de olamaba. Il faut inverser la cassette d'examen dans l'autre sens. Moi je donne du olamaba, je donne du olamazé à l'autre.
Et pourquoi l'autre, c'est bien pour l'autre dans la
main. Si tout le monde va commencer à vivre pour leur lame à bas de l'autre, le monde devient invivable. Dieu veut qu'il y ait du chesed. Le monde est fonctionne. Le monde est basé sur le chesed.
Mais en quoi c'est un chesed maintenant?
C'est chesed dans la mazé, pas dans la mama. Le monde devrait être invivable. C'est Dieu déjà qui s'occupe de la mama des gens. C'est pas à toi de t'en occuper. T'as pas à faire souffrir les gens pour qu'ils aient de la mama. Mais Gagim, quelqu'un qui vient et qui me fait souffrir, c'est vrai que pour moi c'est bien et que lui, quelque part, je vais lui dire merci. Mais lui, il est redevable par rapport à Dieu. Lui, il est appelé Racha. Quelqu'un qui vient et qui me met une gifle. Dieu l'a envoyé que j'ai. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Donc Dieu a voulu que lui vienne maintenant me donner une gifle. Maintenant, lui, pourquoi est-ce qu'il m'a donné une gifle? Dieu a voulu, non. Dieu avait une case qui a dit maintenant X doit donner une gifle à Ron Shaya. Ron Shaya, il mérite une gifle. X veut lui donner. Qui est ce X? On cherche quelqu'un maintenant qui a la main un peu facile. Et lui, c'est son tikkun maintenant. Est-ce qu'il donne? Est-ce que c'est un violent? Un violent. Est-ce qu'on va même dans une situation maintenant de Nisayon, d'une épreuve? Il devra ne pas donner. Mais on sait que vu qu'il a une tendance à oui donner, il a beaucoup de chances de donner. On est dans une situation maintenant où Ron Shaya lui marche sur le pied. Oh! Il a un Nisayon. Ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Il rate, tac. Lui, il est coupable. Megagim, Hayav, Choval et Hayav. On fait retomber une chose coupable sur quelqu'un qui est déjà coupable. Lui, il a déjà, c'est pas sa première fois qu'il donne une tarte, il a déjà un actif très grand. Donc on veut qu'il répare. On le met maintenant en Isayon de donner une tarte et il retombe. Dieu a réussi maintenant à ce que Ron Shaya reçoive sa gifle. D'accord? Mais le type par rapport à moi, j'ai aucun compte à régler avec lui. Lui, c'est un envoyé de Dieu. Merci. Ou pas merci, mais en tout cas, j'ai pas à lui en vouloir. D'où la mitzvah que dit la Torah dans Parashat Kedoshim. Lot est comme Lot est tort. Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras pas rancune. Quelqu'un m'a mis une gifle. Quoi pas me venger? La vérité, s'il me met une gifle, je peux lui rendre tout de suite, d'accord? Pour me protéger. Ça, c'est pas se venger. Ouais, je ne donne pas la gifle, mais je l'attends au tournant. D'accord? Comme dit le dicton français, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça, c'est interdit. Quand tu es sous l'emprise de la chaleur, tu rentres, tu n'as pas le droit non plus, parce que de donner un coup, tu n'as pas le droit. Pour te défendre, oui. Tu redonnes un coup maintenant sous l'emprise de la chaleur, alors tu ne transmets pas l'interdit de ne pas se venger. Mais si tu gardes ça, la rancœur dans ton corps, et tu te venges, ou même si tu ne te venges pas, mais tu gardes la rancœur, tu transgresses un lave de horacta, une interdiction d'attente. Pourquoi? C'est normal, il m'a fait du mal, c'est normal que je lui en veuille. Non, mon cher, il est envoyé par Dieu. Tu n'as aucun compte à régler avec lui.
Mais c'est bien quand c'est une gifle, mais quand ça.
Genre, quand c'est pire.
Quand c'est un an, deux ans, et tout le temps, tous les jours, etc.
Terrible, et terrible. Le Misat Yisharim, il dit, ce n'est facile. Le Misat Yisharim a souffert énormément. Le monde entier lui est tombé dessus. Il en fait les pires saloperies au monde. Ramchal, le Misat Yisharim. Il écrit, le Ramchal, ne pas se venger et ne pas porter rancœur, garder rancœur, ce n'est facile que pour les anges, pas pour les êtres humains qui sont dans la matière. C'est pas facile, mais ça veut dire, mais la Torah, elle a dit, la Torah interdit, c'est un lave de horaïta, lave de horaïta.
Il dit s'il a donné quelque chose, c'est possible. Hein? Tout ce que les mitzvot que Dieu a donné, c'est parce qu'on peut les faire.
Qui a dit c'est impossible? Je dis c'est dur, ce n'est facile.
C'est facile que pour les anges.
Facile que pour les anges, difficile pour l'homme, difficile, c'est possible, mais difficile, c'est pas facile. Quelqu'un a fait ça pendant 10 ans, pardonne-moi. Ah, comme ça, tchac. Oui, il faut pardonner. C'est pas facile. Pardon?
Si c'est pendant que tu fais souffrir.
Mitzvah de ne pas porter rancœur. Pendant quoi? Pendant la gifle, tac. Ça ne veut pas dire, je te pardonne sur place.
Sur un an, deux ans, trois ans.
Bien sûr.
En plein dedans.
Bien sûr. Bien sûr, il faut travailler parce que.
Non.
Mais qu'est-ce que tu me réponds, toi? Tu me réponds maintenant, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais Dieu dit, réfléchis, t'as le cœur, mais tu as la tête. Nous fonctionnons d'après la tête. Comment se fait-il que je souffre? Alors, le type qui n'a pas de émouna, pas de croyance en Dieu, il dit, le type lui fait du mal, tu n'existes pas. Un type qui est ma'amine, il sait, rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'arriver si
Dieu. Ok, mais c'est quand même lui qui le fait.
Laisse-moi terminer. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Donc, lui, maintenant, il est envoyé de Dieu. C'est un ange avec deux petites ailes. Tu veux maintenant te venger contre Dieu? C'est un ange envoyé. Dieu lui a dit, va, frappe. David Ameler, David Ameler.
C'est quand même
venu par lui, Rabbi. Je dis, tu ne transgresses pas l'interdit de rancœur. Tu peux te défendre pour pas qu'il ne frappe plus.
Non. Si on l'arrête pas maintenant, il va continuer.
Ah, bah alors, le rage comme le robot. Celui qui vient te tuer, tu peux te lever pour le tuer d'abord. Oui, tu peux frapper pour te défendre. Mais tu vas frapper maintenant pour te venger. Tu peux, si tu frappes sur place maintenant, c'est pas appelé une vengeance, c'est à frapper, c'est à parler que tu frappes. C'est un autre interdit, l'interdiction de frapper. Le Yosif. On a vu aussi dans Parashat Ki Tetzé. Tu n'as pas le droit de frapper. Quand maintenant. Tu l'attends au tournant plus tard pour te venger ou tu regardes rancœur. C'est quoi tu regardes rancœur? Lui, demain, il va dire prête-moi de l'argent. t'aurais pas 10 000 balles, j'ai besoin d'argent. Le type qui a vendu son cul une tarte, il vient te voir 6 mois plus tard, il dit, dans la grande chutzpah, il dit, prête-moi 10 000 balles. Je lui dis, écoute, si tu le dis maintenant, je te prête. Mais sache que tu ne mérites pas, parce que la gifle, je n'ai pas encore oublié. Mais moi, je ne suis pas comme toi, je suis gentil, je te prête l'argent. Tu as transgressé le lave de l'interdiction de la Torah, comment j'ai du port, de garder en cœur. Le Rambam dit, il faut effacer ça de son cœur. Le message du Rambam dit, c'est facile que pour les anges. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Parce que le cœur, il souffre. Mais la tête, et Dieu veut confondre avec la tête, me dit, cet homme-là, il est envoyé par Dieu, point barre. Lui, il a un compte à régler avec Dieu. Il donne des tartes à tout le monde. Ok, t'en fais pas, Dieu va enlever son compte, mais c'est pas ton affaire. T'es pas Dieu. Lui, comment une chose peut t'arriver? Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Rien ne peut m'arriver. David Hamel, je t'entends expliquer. Il y a trois, il y a le chariot céleste de Dieu, il y a quatre roues, quatre piliers. Les trois premières sont Abraham, Israël et Yaakov. Le dernier qui stabilise tout s'appelle David Ameler. En quelque sorte, sur lui se stabilise la présence de Dieu sur terre. Dans la Merkava, le véhicule de Dieu sur terre, Abraham, Israël et Yaakov, David Ameler. Malchut, la royauté de Dieu sur terre, elle vient par David Ameler. Quand est-il devenu David Ameler? Quand est-il devenu, pardon, la quatrième roue, son fils Absalom fait un putsch militaire. Il devient roi à la place du roi. Le fils du roi David, lui, il prend sa famille, ses proches, et il monte à pied, pieds nus, il est en train de monter maintenant le mont des Oliviers, il s'enfuit du palais. Il part dans le désert. T'imagines un peu la souffrance. Mon fils me fait un putsch militaire. Je m'enfuis sans rien, sans protection, avec des femmes, des enfants, des bébés. Je suis en état maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Sort Shimi Ben Gera, le chef du Sanhedrin, un grand juge d'Israël, un tzaddik, super tzaddik, qui commence à jeter des pierres sur David. Que la Nimretzet, Noef, tu as fait l'adultère, Mored, tu t'es révolutionné, Nimretzet, c'est racheté votre Nimretzet, Noef, c'est un adultère. Moret, t'es un révolutionnaire, tu as pris le royaume à la place de Shaoul. Nimretzet, Rotzer, t'es un assassin. Sorer, tout ça sur David Ameler, assassin.
Qui a assassiné?
T'as assassiné. Qui l'a assassiné? Il a assassiné.
Oui.
Uriachite. Sorer, persécuteur. Nimretzet, Taf. J'ai oublié. Encore une insulte, une malédiction. Le général de l'armée qui est avec David, Yoav Ben Tsruya, sort son épée. Yoav Tsruya, c'est le super Gibor, Rambo, Superman. Il dit à David, laisse-moi que je tue ce quel est, que je tue ce chien. David dit, qu'est-ce qu'il doit dire? Vas-y. Mon roi Malchut, un type qui vient comme ça contre le roi, il est roi d'Israël, il mérite 10 fois la mort. Et David a complètement raison de dire ça. Il dit, laisse-le. Hachem Amar Lo Kalel, Dieu lui a dit, insulte. T'imagines le nisam qu'il a eu, David Ameler, à ce moment-là. Il est en état de... Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il, un moment, il n'en peut plus. Et encore maintenant, ça kill en plus. Un homme normal, il pète un câble. Chazal disent, à ce moment-là, quand il a dit, laisse-le, Dieu a dit insulte, il est devenu la quatrième roue du chariot divin. Comment est-ce qu'on devient quelqu'un qui devient le chariot de Dieu, le stabilisateur de la présence de Dieu sur terre, le dévoileur de la royauté céleste, quand quelqu'un dit, Dieu est là? Si Dieu est là, ce type-là peut me faire quelque chose. Mais ça, ce que je vous dis maintenant comme leçon, c'est une leçon de l'ABC de la vie. Quand quelqu'un comprend ça, toute sa vie, elle change. Rien ne peut m'arriver. Rien, si Dieu ne veut pas. Alors, de quoi je m'en fais? De quoi je m'en fais? Je n'ai pas à m'en faire. Quand je comprends ça, que tout ce qui m'arrive, c'est rien, c'est moi par rapport à Dieu. Les autres, je n'ai pas à être jaloux, je n'ai pas à en vouloir, je n'ai pas à avoir de la rancœur. Ça n'existe pas une chose pareille. Je n'ai pas à regarder pourquoi lui réussit, moi je ne réussis pas. Je suis avec Dieu. Quand quelqu'un a compris ça, c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de mission. Le cours a commencé, pourquoi est-ce qu'on a des épreuves, d'accord? Les épreuves sont là pour nous réajuster dans le tir avec Dieu. Quand quelqu'un vient te souffrir, toi tu n'es pas encore OK avec ça. Preuve en est que ça te fait mal. Donc Dieu vient réveiller ce mal. Mais arrivez maintenant que ça ne va pas chez toi. Si tu n'avais pas maintenant cette épreuve-là, tu ne verrais pas que toi, à ce niveau-là, tu n'es pas encore clean avec Dieu. Tu dépends des autres. Alors Dieu maintenant, vu qu'il y a une dépendance des autres qui est potentielle, Dieu maintenant, il amène vraiment quelqu'un qui, à cause de cette dépendance potentielle que tu as, devient réel. Quand tu comprends que ça te fait mal, donc ça me fait mal, mais ça ne doit pas me faire mal. C'est comme si Dieu maintenant, il ouvre, il y a un abcès, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il te dit, regarde, là, ça ne va pas chez toi, dans ton corps. Hein. Il t'ouvre maintenant, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Hop, ça me fait mal, je l'enlève. Je vois comment maintenant, j'ai une dépendance des gens, je regarde ici de ce côté-là, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Rien ne doit me faire mal, parce que tout vient de Dieu. Du moment que je comprends que tout vient de Dieu, je réajuste le tir, et d'habitude, ça je vous dis d'expérience, ma petite expérience, et beaucoup d'autres d'où j'ai tenu cela, quand quelqu'un réajuste le tir, c'est-à-dire qu'il se remet devant Dieu, d'habitude, la chose qui fait mal, elle disparaît. Parce que la seule raison pour laquelle Dieu a mis cette chose qui fait mal, c'est pour que justement tu réajustes le tir, que tu le mettes face à Dieu. Quand tu es face à Dieu, alors tu n'as plus à te soucier. Oui, mon cher ami.
Non, je veux dire, je parle pas, c'est la grandeur de David Chas V'Shalom. Mais David savait très bien, depuis que Nathan Anavi lui avait dit qu'il avait fauté avec Uri, il savait très bien que de toute façon, son châtiment allait venir du côté de
sa famille.
Donc c'était pas un aussi grand ribouche que de savoir que c'est Dieu qui l'envoie. Puisque
mais Chimie, je te parle de Chimie Ben Guerra.
Ouais, Chimie Ben Guerra, il vient dans ce contexte-là. Alors,
c'est en plus, c'est pas dans l'épreuve qu'il attendait. C'est pas
de savoir que ça vient de Dieu.
C'est pas dans l'épreuve qu'il attendait. Il attendait une épreuve de son fils, de sa famille. Ok, il part, c'est terrible. Maintenant, il y a une autre épreuve nouvelle qui arrive. C'est hors contexte. Et lui, c'est le roi. Et c'est pas un petit gnangnan qui vient l'insulter. C'est le chef du Sanhédrin devant sa famille, devant sa cour, devant ses enfants. Il a fait de tous les noms, adultère, morette, assassin. Le roi David devant sa famille, t'imagines un peu l'archouman en bon français. Mais qu'on lui coupe la tête.
Alors,
ok, monsieur, oui.
Pardon, juste, on ne doit pas en vouloir non plus aux Allemands, on peut acheter des voitures allemandes.
Il est complètement ridicule d'en vouloir aux Allemands. Ridicule. L'Allemand est un salaud, une ordure, et il payera. Mais ce n'est pas mes affaires, c'est pas mes hommes. Tu as de la haine. Les gens petits ont de la haine. Les gens qui ont vécu la Shoah, ils ont pas de... Pourquoi ils ne sont pas allés? Les gens qui ont vécu la Shoah, très souvent, n'ont pas de haine. Et c'est terrible ce qui s'est passé. Un point, c'est tout. Ces gens-là, ce n'est pas des hommes, ce sont des bêtes. On est d'accord là-dessus. Je ne viens pas dire qu'ils sont bien, Hasé Shalom, d'accord? C'est pire que tout ce qu'on peut imaginer. Mais je n'ai pas de compte à régler avec eux. Moi, j'ai un compte à régler avec eux. Aucun. Il se peut qu'effectivement, c'est pas humainement recommandé de commencer maintenant à aider l'économie allemande si ce sont des gens qui sont encore dans le même esprit. On ne veut pas aider le mal. Si c'est des gens qui sont dans le même esprit, je ne sais pas. Entre nous, pourquoi tu n'achètes pas maintenant, pourquoi tu achètes des bagnoles espagnoles? Ils ont bien eu l'Inquisition. Et pourquoi français? Ils ont bien fait les croisades. Et pourquoi russes? Ils ont bien fait, ils ont bien débauché. Donc, et Japon, ils ont bien sourcé, on aura bientôt sur le crâne aussi, d'accord? Et on ne peut pas rien acheter, on achète juif. Ça continue la cassette, c'est bon, c'est fermé.